بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. شفاق الإسلام، nous remercions Allah عز وجل qui nous donne la possibilité ce soir de reprendre inshallah avec استقامة, fermeté et constance le programme hebdomadaire de tafsir. Et avant le Eid al-Adha, le Bakrid donc, on avait, me semble, complété le tafsir de Al-Infitar. Il me semble qu'on avait complété, où il restait quelques versets de « Idha samaa unfatarat ». Et ce soir, Inch'Allah, on va essayer de repasser en revue très rapidement la surah pour la compléter ce soir, Inch'Allah, et avec comme objectif de commencer « Idha shamsu kubwirat » à partir de vendredi prochain, Inch'Allah. Dans les cinq premiers versets que nous avons cités, Allah Azza wa Jal annonce des événements qui auront lieu lors de la fin du monde, lorsqu'Allah Azza wa Jal va détruire ce dunya. Et ces événements concerneront le ciel, les étoiles, les mers et ce qu'il y a sous la terre. Donc, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, quand le ciel se rompra. Et on avait expliqué en temps voulu, quand on avait fait le tafsir détaillé de ces versets, que avant la fin des temps, avant la destruction de ce dunya, Allah Azza wa Jal va ordonner au ciel de se fendre. Et avec d'autres surahs, avec d'autres versets qui commentent, qui rejoignent le même sens, il est décrit également que le ciel va se briser, pareil des morceaux de coton qui ont été donc écrasés, qui ont été éparpillés. Et quand les étoiles se disperseront. Ça aussi, on avait vu, on avait expliqué que les étoiles, et on avait parlé assez longuement, subhanallah, de la grandeur des étoiles. Hein. Il y a encore sur internet, il y avait un article qui parlait d'une planète qui serait, je ne sais pas, un milliard de fois plus grande que le système solaire, qui a été découvert à telle distance de notre système solaire. Il dit que ça fait, c'est plus 1,5 milliard de fois, si je ne me trompe pas, plus grand que le système solaire de lequel nous sommes. Donc, subhanallah, quand nous voyons le nombre d'étoiles, le nombre de planètes, de constellations, de subhanallah, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé? Et donc, avant la fin des temps, toutes ces planètes, hein, ces satellites, tout ce qui a été créé, existe dans les cieux dont nous connaissons l'existence, mais également ceux dont nous ignorons l'existence, parce qu'il y a beaucoup plus de planètes. Il y a beaucoup plus d'étoiles dont nous ignorons l'existence que ceux que nous connaissons et que nous avons su répertorier. Mais à la fin des temps, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé dans l'espace, ces étoiles-là vont se disperser. Wa idha al-biharu fujirat, et que les mers confondront leurs eaux. C'est-à-dire les eaux des mers vont se mélanger. On avait vu également que l'eau de la mer va se mettre à bouillir parce que le soleil va descendre au plus proche de la terre. Ensuite, il y a un autre signe, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. On pourrait dire que ces trois signes-là, ces trois signes de destruction, hein, il y a des fois où quand on parle de scénarios catastrophiques de la fin du monde, parfois quand il y a des films qui essaient de représenter un peu la fin du monde, ben c'est souvent en rapport avec le soleil, les étoiles, le ciel, les mers. Mais par contre, il y a une notion qui les dépasse complètement, c'est ce qu'il y a sous terre. Parce que un esprit, on va dire, cartésien, scientifique, pour eux, sous terre, il n'y a rien. La seule chose qu'il peut avoir sous terre, hein, c'est des vertébrés, c'est des insectes ou autre chose, des reptiles, mais il n'y a pas véritablement de monde sous terre, alors que nous ne connaissons que les amouates, les morts, les défunts, restent sous terre avec une certaine forme de vie. Et à la fin des temps, donc, lors du Qiyam, et que les tombeaux également seront bouleversés. أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. Tout ce qui existe sous terre va ressurgir. va ressortir. Et dans quel but? Afin que tous ces morts soient enfin présentés auprès d'Allah. Et qu'on arrive à ce verset, on va dire que c'est le verset de transition entre le monde de ce dunya et le monde du akhira. Tant qu'on parle du soleil, on parle des étoiles, on parle de la mer, on reste encore des descriptions qu'on arrive à comprendre. Mais quand le verset explique que les morts vont ressurgir de la terre pour être présentés devant Allah, c'est là qu'on voit la transition. Il y a un monde qui se termine pour laisser place à un autre alam, à un autre monde qui va se mettre en place, c'est le monde de l'au-delà. Et vous savez que la première chose qui va avoir lieu le jour de Qiyama, parce que quel est le but du Qiyama? Le but du Qiyama, c'est que chaque personne qui est venue sur cette terre se présente devant Allah pour répondre de ses actions, de ses a'mal, pour être jugé de la vie qu'il a passée de ce dunya. Comment est-ce qu'il a géré le temps qu'Allah lui a accordé? Comment est-ce que chaque personne a géré la jeunesse qu'Allah leur a accordé un certain moment de leur vie? Comment chaque personne a géré la santé, le corps, les biens, c'est-à-dire tous les bienfaits qu'Allah a accordés à chaque personne? Le jour du Qiyama, c'est le moment pour répondre de ces ni'mas en plus des a'mal. Parce que le hisab, très souvent, on a cette conception que le hisab, le jour des comptes, on répondra de nos actions. Oui, on répondra certes de nos actions, mais on répondra également des ni'am, des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés à chaque personne de ce dunya. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui se disent que bon, ben moi je fais mes salats, je fais les bonnes actions, je ne fais pas les péchés, c'est bon. Mais la manière que tu gères ton argent, la manière on a, subhanallah, on gère notre temps, de quelle façon est-ce qu'on a passé notre jeunesse, la santé qu'Allah nous donne, comment est-ce qu'on utilise ce corps, tout ça, ça fait partie des ni'am, des bienfaits, à propos desquels nous serons donc questionnés le jour des comptes. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Al-na'im, c'est le pluriel de ni'ma. Il y a tous les bienfaits qu'Allah a accordés, plus une personne a eu des ni'ma, des bienfaits de la part d'Allah, plus il y aura hisab, plus il y aura donc des comptes à rendre à ce propos. Donc, avec ce verset, on voit que ces morts vont ressurgir, hein, des entrailles de la terre. Ça peut être des gens qui ont été, subhanallah, enterrés il y a 200, 300, 400, 500 années, ou depuis l'époque de Adam alayhi salam, mais ils vont tous retrouver la vie. Et quand on parle de l'au-delà, la première grande étape, c'est la résurrection. C'est lorsque Allah Azza wa Jal ordonne aux arwah, aux âmes, de retourner dans les corps. Et que les corps vont être reconstitués. La chair, la peau, les os, les cheveux, les poils, l'être humain va retrouver sa consistance avant de mourir. Et même, plus encore, sa consistance, hein, son apparence physique, même comme depuis sa naissance. Parce que les hommes seront ressuscités non circoncis et pieds nus, sans vêtements. Donc le but de la résurrection, la première étape pardon, de la résurrection, c'est les corps qui vont ressurgir de la tombe, ils vont être reconstitués comme ils avaient existé dans ce dunya, et le ruh, l'âme qui revient dans le corps. Donc, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Donc là, nous voyons la transition entre la destruction de ce dunya et la résurrection, l'étape de l'au-delà, lorsque les corps sont ressuscités pour être présentés auprès d'Allah. Et à ce moment, chaque personne va réellement comprendre qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Parce qu'à ce moment, comme le dit le verset, « كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. » Le sens global du verset, c'est que pour chaque être humain, il y a donc un livret. Et nous connaissons l'existence du livret. Ça, ça fait partie de Iman bil Malaika, la foi sur les anges, que d'être conscient, d'avoir la conviction qu'avec chaque être humain, il y a deux anges qui inscrivent les actions bonnes comme mauvaises. Et les actions sont inscrites dans un livret. Ce livret, on ne le voit pas, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le brûler, le jeter ou autre chose. Ça fait partie du monde de l'invisible, du monde du ghaib. Et l'aqidah du croyant, c'est que le jour des comptes, ces livrets seront remis à chaque personne, à chaque individu. Et il sera demandé à chaque personne, Iqra kitabak, lis ton livre. C'est-à-dire que chaque personne va prendre conscience de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a œuvré. Imaginez que quelqu'un, subhanallah, quelqu'un commerce, et il se fait inspecter par, comment on appelle ça, le fisc, je ne sais pas quoi, il vous fait un bilan de vos 15 années d'activité, il vous présente un livret avec la première année où vous avez créé l'entreprise, jusqu'en 2013, le bilan, les dépenses, les choses qui ont été déclarées, les impôts que vous avez payés. La personne prend conscience également, à ce moment-là, de l'historique de son entreprise. Mais le jour de Qiyama, c'est différent. L'être humain va prendre conscience de l'intégralité de sa vie. Comment j'ai orienté ma vie? Et là, on va voir chaque décision, tous les choix, chaque moment où on avait la possibilité entre choisir le droit chemin et le mauvais chemin. Lorsqu'on a choisi le droit chemin, on va voir de le livrer de compte qu'à ce moment-là, le serviteur a choisi d'obéir à Allah et d'aller à l'encontre de son nafs et de shaitan. Et donc, ce sera un moment de joie pour lui lorsqu'il va voir cette bonne action. Mais il va voir également qu'à tel moment, il avait le choix entre le halal et le haram. Et il a choisi de suivre ses pulsions, ses passions et de choisir l'illicite. Et donc là, ce sera un moment affligeant pour cette personne que de voir dans son livret de compte que il y a 15 ans de cela, j'ai choisi le péché plutôt que de faire la bonne action. Donc, alimat nafsumma qaddamat wa akharat, toute âme saura alors ce qu'elle accomplit et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ibn Mufassirin dit également, ça c'est un grand piège de shaitan, ça. Le fait de remettre à plus tard. On appelle ça en arabe at-taswif. At-taswif, ça vient de la particule saoufa. Saoufa, on l'utilise pour le futur. Je ferai plus tard. Shaitan égare beaucoup de gens par les péchés. Ça, on le savait. Mais shaitan sait également qu'Allah Azza wa Jal est ghafur rahim. En fait, il est plus au courant de cela que nous-mêmes. Shaitan, il connaît mieux Allah Azza wa Jal que nous-mêmes croyants. Parce que shaitan vivait parmi les malaïkas. Il connaît les sifats d'Allah, la bonté, la générosité d'Allah. Donc, Shaitan sait qu'Allah Azza wa Jal est capable de pardonner. Et lorsqu'Allah décide d'accorder son pardon, Allah ne regarde plus les péchés accomplis. Allah ne regarde pas non plus le nombre d'années que vous avez fait ce péché. Allah ne regarde pas non plus si vous êtes un récidiviste. Si la personne a fait le péché, il a arrêté, il a recommencé. Parce que Allah Azza wa Jal est tellement généreux, tellement Ghafur Rahim, que lorsqu'il voit qu'un serviteur revient vers lui avec un cœur pur et sincère, et qu'intérieurement il a envie de changer, il a envie de se rattraper, de retourner auprès d'Allah, alors même si on a passé 50 ans dans les péchés, 50 ans dans les pires des péchés, Allah Azza wa Jal est capable de tout pardonner. Oui ou non ? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, tout intégralement. La seule chose qu'Allah ne pardonne pas, c'est quoi? Le shirk, bien sûr. Si quelqu'un fait le shirk, c'est qu'il ne croit pas en Allah. Donc il n'y a aucune raison que la personne ait de l'espoir en Allah. Il y a des fois où on condamne les gens. On a l'impression que lui, il a fait l'adultère, l'homosexualité, il a volé, il a utilisé l'argent haram, il a fait telle chose. Donc c'est un homme perdu. Abadan. C'est lorsqu'on commence à douter de la clémence d'Allah qu'on est vraiment en train de s'enfoncer dans le pire des péchés. Ça, c'est sou'ouvan billah. Mauvaise pensée sur notre créateur. Et donc, pour revenir à ce qu'on a dit, Shaitan sait pertinemment qu'Allah Azza wa Jal est ghafour rahim. Que lui, Shaitan, il va faire des efforts énormes pour nous entraîner, pour nous amener peu à peu, progressivement vers certains péchés, mais que lorsque le serviteur se rend compte de son erreur, et ça c'est l'étape, mes chers frères, l'étape la plus importante, la prise de conscience. Quand on prend conscience qu'on a fait un péché, quand on prend conscience qu'on est en train de faire des erreurs, qu'on est en train de répéter des péchés, là c'est déjà un bon signe. C'est qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de nous réveiller, de prendre conscience qu'on est dans le péché. Quand on arrive à mettre une étiquette péché sur nos mauvaises habitudes, sur les mauvaises choses qu'on fait, là c'est déjà une première étape, prise de conscience que ça c'est haram. Et la deuxième étape, ce sera un nadam, les remords, les regrets par rapport au péché. Là c'est le bon cheminement. Si quelqu'un il commence par ces étapes, il se rend compte que il en a déconné là. Je ne sais pas combien de temps il fume Zamal, ouais, depuis combien de temps il ne vient pas à la mosquée, et ainsi de suite. Ce n'est pas bien. Quand la personne se rend compte que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas bien, alhamdulillah, c'est ni'ma min Allah. C'est que la personne fait le premier pas vers un tawbatun nasuha, vers un repentir sincère. Parce que tant qu'on n'est pas conscient qu'on est dans le péché, qu'on cautionne nos péchés, qu'on continue à les faire en se bouchant les yeux, on n'écoute pas les rappels, on ne lit pas les versets du Coran, même si on entend, on se dit que non, ça c'est pas pour nous, ça c'était pour les Sahaba, ou alors à notre époque c'est plus possible, ou alors non, ça c'est une vision archaïque de l'islam. Allah est clément, lui il pardonne, c'est pas vrai ça, c'est pas des péchés, et ainsi de suite, tous ces pièges de shaitan qui nous font oublier que le péché c'est avant tout une désobéissance envers le Créateur. À partir du moment où on a dépassé cette étape et qu'on est conscient que je suis parti trop loin, que je suis en train de m'enfoncer, c'est qu'Allah veut du bien pour vous. Et si Allah vous donne tawfiq, on passera à la seconde étape qui est, comme on a dit, les remords, les regrets. Et là, on regrette d'avoir désobéi à Allah tout ce temps-là. Ou une seule fois même. Même si Allah protège, quelqu'un fait une fois le zina et que la personne se rend compte que c'est grave et que la personne se met à regretter, c'est déjà quelque chose de bien. C'est, le péché a été fait. Je veux dire que si vraiment la personne est sincère pour demander tauba, si il y a une différence entre quelqu'un qu'Allah me pardonne, hein, a fait le zina et il demande le tauba, on va dire le tauba syndical, hein, le SMIC du tauba, juste pour la, pour dire qu'il a demandé tauba, sans remords, sans l'intention d'arrêter ce péché, sans faire l'intention de s'éloigner de cette fille, de cette dame qui lui a fait faire ce péché, ou de l'endroit où il y a le péché, ou des gens qui l'entraînent vers le péché, son tawba ne sera pas accepté. Parce qu'il n'y a pas de sincérité dans ce tawba. Alors que celui qui a fait le même péché, mais qui regrette vraiment, sincèrement, qui pleure, qui demande pardon à Allah, il sait qu'il a désobéi à Allah, il serait prêt à faire tout ce qui est possible pour obtenir la clémence d'Allah. Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Allah sait parfaitement distinguer celui qui se ment à lui-même en faisant un faux tauba, avec déjà l'intention de refaire le péché plus tard. Et celui qui a fait la même bêtise, le même péché, mais qui intérieurement voit son cœur saigner, remords qu'il a désobéi à son Créateur, et il veut faire tout pour qu'Allah l'accepte de nouveau. Celui-là, il a un cœur sincère et pur, et celui-là, son tawba est accepté parce qu'il regrette, il a honte de sa position auprès d'Allah. Et la troisième étape, c'est Allah donne tawfiq à la personne de lever les mains, demander tawba avec les conditions qu'on a dit, remords, l'intention ferme de ne plus recommencer et prendre les précautions pour ne plus retomber dans les mêmes péchés. Lui, son tawba est accepté. Alors là, Shaitan sait qu'il a travaillé telle personne pendant des mois et des mois et des mois. Quelqu'un qui était, mashallah, il y a des gens comme ça, qui, alhamdulillah, sont dans le droit chemin, et ils succombent dans, on va garder l'exemple du zina, de l'adultère, ils succombent dans l'adultère en quelque temps. Et personne ne comprend. Comment ça se fait? Un homme qui vient à la masjid, père de famille, marié, 2, 3, 4 enfants, quelqu'un de stable, quelqu'un, machallah, on va dire une valeur sûre en termes de mu'mine, tout d'un coup il a déconné, il a lâché sa femme pour aller avec telle personne. C'est un dossier que Shaitan travaille au quotidien. Première étape, Shaitan a fait en sorte de désacraliser le zina du regard. Vous savez que le regard, c'est une flèche, comme le dit le hadith, c'est une flèche de Shaitan. Le regard est une flèche empoisonnée de Shaitan. Tant que le croyant est conscient que regarder une fille, une femme étrangère, que ce soit en live ou à la télé, dans un magazine ou sur internet ou autre chose, c'est haram, on va dire que la personne est encore protégée. Mais quand Shaitan arrive à nous faire intégrer que ça c'est pas grave, quoi il fait au regard tantina, et alors, ou ça pas de touche à lui, ou ça n'a pas fait de l'adultère, on l'a juste regardé. C'est pas grave, il y a des gens qui font pire que toi. Quand Shaitan arrive à désacraliser le péché, c'est qu'il est en train de nous travailler. Parce qu'il ne veut pas s'arrêter à là, lui. Mais pour lui, c'est la première étape. C'est comme si que, il y a différents, on va dire différents fusibles. Il va essayer de les faire sauter un par un. Et il va commencer par le regard. Si il arrive, encore une fois, à nous faire intégrer que regarder une femme étrangère, ou de l'autre sens, hein, une femme regarde un monsieur, parce que c'est qu'il y a le mu'minin et qu'il y a le mu'minat et qu'il y a dans les deux sens, que Shaitan arrive à persuader le croyant ou la croyante que regarder un homme ou une femme étrangère, ce n'est pas haram, ça veut dire qu'il est en train de travailler votre dossier. Il est en train de préparer le terrain pour vous faire faire le zina. Il réussira ou il ne réussira pas. Mais déjà, il avance ses pions, il fait en sorte que on va commettre régulièrement le zina avec les yeux. Et puis, ce sera d'autres étapes. L'approche va faire en sorte que on considère que parler avec cette femme étrangère, mais quand on dit parler, c'est avec des termes un petit peu la drague, quoi, hein, des termes qui vont essayer de toucher un peu les cœurs, va nous faire intégrer que ça, c'est pas grave non plus. C'est être poli, c'est être courtois, c'est être galant, et ainsi de suite. Et après, les étapes qui vont venir. Donc, Shaitan, il travaille quelqu'un pendant des mois et des mois pour lui faire tomber de l'usina. Mais c'est pertinemment que si quelqu'un, il demande Tawba sincèrement à Allah, Allah pardonne. Donc, Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Pour qu'on n'ait pas l'envie de demander Tawba, il va nous persuader de reporter le Tawba à plus tard, après. Attends le mois de Ramadan, tu demanderas pardon. Au mois de Ramadan, les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Il va même vous dire que de Ramadan, je suis enchaîné. Je ne pourrai rien te faire, tu demanderas Tawba tranquillement. Il reste encore 2 mois, keep cool, hein, vis ta vie, continue, fréquenter telle personne, fais ce que tu veux, fais le zina. Dans 2 mois, c'est Ramadan, et tu demanderas pardon, et sois fini. At-taswif. Ça, c'est un piège de Shaitan, où il joue avec le temps, parce que lui, il a eu le temps avec Allah. Quand il a été chassé du ciel, il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui donner le temps jusqu'au Qiyama pour détourner l'être humain. Et Allah lui a accordé le temps. Quand la fin la kamina al-mundarin, il a yomil waqtil ma'loum. Il a eu le temps. Il utilise le facteur temps pour nous induire en erreur. Tu demanderas Tawba plus tard. Tu commenceras à faire ton namaz, ta salah, plus tard. Tu apprendras la religion, mais plus tard. Tu deviendras assidu au premier rang de la mosquée, mais plus tard, quand tu seras à la retraite, quand tu auras plus de temps libre, ainsi de suite. Et lorsque Malik al-Maut, tu demanderas Tawba, tu arrêteras tel péché, tel péché, tel péché, plus tard. Pour le moment, vis ta vie. Mais lorsque Malik al-Maut vient et prend le roux, prend l'âme, on se rend compte qu'il y a plein de choses que j'avais l'intention de faire. Il y a plein d'erreurs que je voulais arrêter durant ma vie. Il y a plein de bonnes actions que je souhaitais démarrer un jour. Il y a plein de péchés pour lesquels j'avais l'intention de demander Tawba, mais c'est trop tard. J'ai tout raté parce que l'ange de la mort vient de reprendre mon ruh, vient de reprendre mon âme, et là c'est les remords. Et quand l'ange de la mort reprend l'âme, c'est comme si que on enlève la pile de l'horloge. L'horloge, c'est on a enlevé la pile à 10h10. Si vous regardez cette horloge dans 20 ans, dans 50 ans, les aiguilles n'auront pas bougé parce qu'on a enlevé la pile. Le jour de Qiyama, on se présente avec les actions qu'on avait au moment où Malik al-Maut a repris l'âme. Ni en plus, ni en moins. Et c'est là le grand remords, les grands regrets pour la personne qui de ce dunia se disait par la suite, plus tard je vais faire. Il y a des gens qui, qu'Allah nous pardonne tous, j'ai pas encore dit c'est quoi, vous dites Amin, nous pardonne de quoi? Et des gens qui, après le mois de Ramadan, mashallah, après avoir passé un mois assidu, tahajjud, qiyamul layl, il se dit que voilà, le Ramadan est terminé, mais j'aimerais quand même continuer qiyamul layl, 30 jours. Je me suis réveillé, j'ai prié la nuit, j'ai levé les mains, demandé doua à Allah, je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Mais après, Shaitan, il m'a dit, hop, 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 tranquille là, Coco va bloquer, là c'est Eid. Après, il y a la fête. On va aller chez un tel, repose-toi un petit peu. Après, tu vas redémarrer ton tahajjud, ton qiyamul layl, bien comme il le faut. Bon, la personne se dit que voilà, j'ai l'intention ferme, après le Eid, je vais jeûner tous les lundis et les jeudis. Dans le mois de Ramadan, il a fait le niya. Tous les lundis et les jeudis, je vais jeûner, parce que c'était la sunnah sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également les 3 jours, 13, 14, 15 de tous les mois, je vais jeûner. J'ai l'intention ferme de faire ça. Et j'ai l'intention ferme également tous les jours, je vais aider quelqu'un. Donner à manger quelqu'un ou donner un petit monnaie à la mosquée ou une personne. Faire une sadaqa régulièrement. Mais quand le Eid est terminé, Shaitan dit, attends, tu viens de faire un mois de jeûne, un mois de prière de la nuit, repose un peu. Allah ne t'a pas demandé non plus de bousculer, de faire volme sur ton corps. Tu feras les lundis, les jeudis, les jeûnes, mais après, attends 10 jours, dans 15 jours, repose-toi un peu. Et tu feras après. At-taswif, pareil. Il joue avec le temps et il nous détourne par le temps. Et on se rend compte qu'on est Dhul-Hijjah, j'ai toujours pas démarré les jeûnes du lundi et les jeudis. Je me rends compte que je n'ai toujours pas commencé mon Qiyam al-Layl. J'ai perdu près de 2 mois. C'est Shaitan qui m'a fait perdre ce temps afin que je ne commence jamais. Alors que j'avais l'intention ferme de le faire, mais je me suis dit que c'est vrai, dans quelques temps je le ferai. Je remets à plus tard. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. D'où le verset, toute âme sera alors ce qu'elle accomplit et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ensuite, il y a une reproche qu'Allah Azza wa Jal fait à ceux qui se sont détournés de lui. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Reproche qu'Allah fait à l'être humain qui se détourne des ordres d'Allah. Comment est-ce qu'on peut se détourner délibérément des ordres d'Allah alors que Allah, c'est celui qui alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Alors que c'est Allah qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement, il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Allah qui nous a créé, qui nous a donné, comme on avait dit en introduction, tous les bienfaits, les ni'ma, la santé, les 5 sens, la possibilité de voir, la possibilité, subhanallah, d'entendre, la possibilité de marcher, de nous déplacer. On n'a pas des problèmes de santé qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas voir, comme peut-être d'autres personnes qui sont éprouvées. Bref, quand Allah nous accorde tout ça, comment est-ce qu'on peut encore se détourner d'Allah Azza wa Jal? Donc ça, c'est vraiment résumé. On l'avait développé avec un peu plus de détails après le Eid. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. Et ça, on avait vu que lorsqu'une personne commence à accomplir des péchés délibérément, c'est que la personne ne croit pas réellement à la résurrection. Regardez bien, analysez bien la situation. Quels que soient les péchés, ça peut être l'adultère, ça peut être la musique, ça peut être l'intérêt, ça peut être désobéissance envers les parents, quels que soient les péchés. Quand quelqu'un, il s'habitue à faire des péchés, c'est que la personne a un manquement dans Iman bil yawm il akhir. Il ne croit pas, c'est pas qu'il ne croit pas l'au-delà, mais il ne croit pas suffisamment. Il ne croit pas correctement l'au-delà. Et quand on a une faiblesse dans la foi en l'au-delà, cette faiblesse-là se répercute directement dans la croyance en Allah, dans la crainte d'Allah, dans l'amour qu'on doit avoir pour Allah. Parce que celui qui, qu'Allah nous protège, celui qui fait l'adultère, pour garder cet exemple, parce que c'est le grand fléau, celui qui fait l'adultère régulièrement, c'est que la personne ne croit pas réellement, n'a pas une conviction sur l'étape de la remise délivrée, sur l'étape de la balance où les actions seront pesées, sur l'étape de As-Sirat, le pont sur lequel chaque personne doit marcher, traverser. Si la personne avait réellement conviction sur ne serait-ce ces 3 étapes de l'au-delà, on pourrait rajouter l'étape de la remise délivrée dans la main droite, fièrement, ou dans la main gauche, c'est le seul moment où on aura le droit d'être fier, ou alors l'humiliation de le recevoir de la main gauche derrière le dos. Si on avait réellement conviction sur ces 4 étapes, jamais une personne ne resterait dans un tel péché, sans retourner immédiatement auprès d'Allah et demander tawbah, pardon, Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une analyse que nous devons tous faire concernant notre vie. Parce que le but des paroles, le but du tafsir, de ce qu'on dit, hein, ce n'est pas juste de parler, d'expliquer le Coran, c'est qu'on puisse transformer ces paroles en amal, en action. C'est que j'analyse qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans les versets. Et il n'y a rien de plus noble que d'essayer de comprendre ce qu'Allah dit dans le Coran et faire une analyse de ma vie, appliquer ces versets dans ma vie de tous les jours. Et donc ce verset-là, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie de tous les jours? C'est en analysant les péchés que j'accomplis. Voir quel est mon degré d'implication dans tel péché. Et comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne me dérange pas d'écouter par exemple la musique du matin au soir. Alors que je connais que c'est un péché, je connais quels sont les châtiments pour ce péché et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que malgré cela, je persiste de ce péché? C'est que, en réalité, je n'ai pas vraiment réalisé les étapes du Qiyam, du Akhira, et principalement les quatre étapes qu'on vient de citer. Parce qu'autrement, si je savais qu'il y a des gens qui recevront le livret de compte de telle façon, et d'autres de telle façon, que certaines personnes auront la balance plus lourde du côté des péchés, et ce sera l'humiliation devant toute l'humanité, et que des personnes vont passer sur le Sirat et tomber dans le Jahannam, tandis que d'autres vont le franchir à la vitesse de l'éclair, honoré par Allah, accéder au paradis. Si j'étais réellement conscient de ces étapes, je ne persisterai pas dans ce péché et dans d'autres péchés. Donc chacun doit faire une analyse de nos péchés au quotidien et comprendre réellement pourquoi est-ce que je persiste dans le haram. Pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas de continuer à désobéir à Allah délibérément jour après jour? Pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas d'arrêter ce péché durant le mois de Ramadan et le reprendre après? C'est quoi cette incohérence? Comment est-ce qu'on peut être aussi contradictoire que d'arrêter? Si j'arrête, c'est que je suis persuadé que ce n'est pas bien et que je dois respecter le mois béni et ne pas faire ce péché. C'est-à-dire que déjà je sais que c'est mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'après ce mois béni, je recommence à désobéir à Allah Azza wa Jal? C'est incohérent. Est-ce que le Ramadan pour moi était plus important que Allah? C'est-à-dire qu'on n'a pas compris les priorités. Que la crainte d'Allah, ça doit être vraiment le leitmotiv du croyant. Jamais me mettre dans une situation où Allah serait fâché, serait mécontent de moi. Qu'Allah me regarderait avec un regard de colère. Donc on doit réellement comprendre que quand on a une mauvaise connaissance ou peu de connaissance sur le Qiyama, sur l'au-delà, ça se répercute dans la quantité de péchés qu'on accomplit et l'éloignement des bonnes actions. Et plus on va apprendre les étapes de l'au-delà, plus on va connaître, plus on va étudier, on va acquérir le ilm, la connaissance à propos de Yawm al-Akhir, on aura plus envie de faire de bonnes actions et il sera plus facile pour nous de nous éloigner du haram. D'où l'importance, mes chers frères, de développer les piliers de la foi, les arkanul iman. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Comment ça? Vous traitez, non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge, alors que wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Que chaque personne qui se retrouve dans une situation où il craint de céder au haram demain samedi à l'heure de Maghrib, quand mes amis m'appellent, m'envoient WhatsApp, texto, je sais pas quoi, pour dire que voilà, ce soir on va à la villa, ce soir on va à tel endroit, on va aller s'amuser un petit peu, et que j'ai un doute, est-ce que j'y vais, me défouler un bon coup, m'amuser un peu, ou alors je me rétracte et je dis que non, ça c'est pas bien. Mais quand on est dans le moment de doute, qu'on se dise et qu'on lit, quitte à le lire à voix haute, le verset wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, qui veut dire alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Prise de conscience que ces anges-là écrivent mes péchés et mes bonnes actions. Donc quand on craint de céder, de tomber dans le péché, on doit se rappeler ce verset qui est un rappel pour l'être humain que comment pouvez-vous ne pas croire en Allah? Comment pouvez-vous désobéir aux ordres d'Allah et ne pas croire au retour vers lui, alors que le plus proche de vous, vous avez des anges qui inscrivent les actions que vous accomplissez au quotidien, bonnes comme mauvaises. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Et on avait vu le verset également, on ne va pas revenir en détail, c'est ce qu'on avait déjà vu avant, mais il y a quand même un verset de Sourah Qaf qui nous interpelle. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Traduction en ce sens que à chaque parole, à chaque fois que l'être humain va ouvrir sa bouche pour prononcer une parole, ben les anges sont là pour inscrire ce qu'il va dire. Est-ce que c'est une bonne parole ou une mauvaise parole? Ça doit être un muraqaba, hein? On va dire une surveillance. On doit avoir sur nous-mêmes, sur nos paroles, sur nos gestes. Chaque fois qu'on va dire quelque chose, réfléchir. Est-ce que ce que je vais dire, c'est quelque chose qui va plaire à Allah ou qui va déplaire à Allah? Est-ce que la parole que je vais dire, les anges vont l'inscrire dans les bonnes actions ou dans les mauvaises actions? Quand je suis avec une jeune femme, une jeune fille ou une dame et que je suis en train de prononcer des paroles qui ont pour but de gagner son cœur, pour avoir des faveurs, je dois prendre conscience que ce sont des paroles qui vont être inscrites par les anges comme péché et qui vont se retourner contre moi le jour des comptes. Quand je m'apprête à dire une parole à mes parents qui m'ont fait des reproches pour un manquement par rapport à mes devoirs, ou alors, je ne sais pas, quelle que soit la nature des reproches, ils auront toujours raison de toute façon. Et que mes parents m'ont fait des reproches, et que je m'apprête à me défendre, à répondre, à argumenter, je dois bien réfléchir à ce que je vais dire. Parce que si j'ai blessé mon père ou ma mère par des paroles, si j'ai prononcé des paroles qui vont les affecter, mes chers frères en islam, ce sont des paroles qui se retourneront contre moi le jour des comptes. Et qui peuvent même causer ma perte et mon échec pour toute ma vie de ce dunya. Parce qu'un enfant, un jeune qui va vexer, qui va attrister le cœur de ses parents, on ne sait pas les conséquences de cette frustration. Peut-être qu'il y a une pensée ou une parole intérieure qui peut sortir du cœur du papa ou de la maman et qui peuvent condamner cet enfant. Un papa ou une maman qui maudirait ses enfants parce qu'ils ont mal agi, ça peut vraiment sceller le sort de cet enfant et il ratera tout ce qu'il va faire dans sa vie. Aucune baraka, aucune bénédiction tant qu'il ne demande pas pardon à ses parents. Bref, chaque fois qu'un croyant va prononcer une parole, il doit être conscient qu'il y a des anges qui inscrivent. Moins de paroles qui est prononcée. Donc revenir au verset. Bon, on a pris un peu de temps. 38, mais on pousse encore 5 minutes, Inch'Allah. Pour compléter, on va aller plus vite. Ensuite, bon là, il y a des étapes un petit peu plus plaisantes. Allah Azza wa Jal va citer la situation des gens qui seront de le Jannah. Innal abrara la fi na'im. Les bons seront servis dans un jardin de délices. Et on vient de parler des parents, subhanallah. Ibn Kathir, rahmahullah, il explique le terme abrar. C'est pas le moment de donner des détails sur les termes, mais al-abrar, ça vient de al-birr, kathratul khair, l'accomplissement de bonnes œuvres. Il dit que al-abrar, ils ont eu ce surnom parce qu'ils avaient bien agi envers leurs parents. C'est-à-dire, en plus de faire de bonnes œuvres, ils avaient bien agi envers leurs parents, d'où leur surnom, le titre de Abrar. Innal Abrar la fi Na'im. Les bons seront certes dans un jardin de délices. On avait expliqué le terme Na'im. Na'im, c'est comme Ni'ma, le pluriel de Ni'ma, les bienfaits. Et on avait vu dans d'autres sourates avant également que les bienfaits du paradis, ce sont des bienfaits certes physiques, palpables. Ce que le prophète me dit, c'est qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, ni aucun cœur ne peut imaginer. C'est les délices du paradis, mais c'est également un ni'ma intérieur. Une quiétude qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur. Une personne peut vivre dans un château, dans un palais, avec de l'argent, avec un frigidaire rempli, avec une femme ou je ne sais pas combien, aussi belles les unes que les autres, mais être triste et mélancolique intérieurement. Ça existe, oui ou non? Combien de fois on voit des acteurs, de grands footballeurs, de chanteurs, etc., qui ont tout, gloire, beauté, amour, célébrité, mais qui vont se droguer, se piquer, ils vont faire telle chose, parce que le cœur n'est pas tranquille, il manque quelque chose. Mais dans le Jannah, il y a certes tous les bienfaits qu'un être humain peut ou ne peut même pas imaginer, mais en plus de ça, Allah Azza wa Jal accorde la sakina, la tranquillité dans les cœurs, parce que les cœurs seront lavés de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui peut les attrister, de tout ce qui est négatif. Et les gens de le Jannah sont réellement comme des frères. Il n'y a plus d'animosité, de haine, de jalousie, il n'y a plus rien de mauvais qui faisait partie de la nature de l'être humain de ce dunya. Donc en plus des bienfaits, il y a une tranquillité, l'épanouissement, la tranquillité, la tama'nina dans le cœur. Inna al-abrar la fi na'im. Et en commentaire, Ibn Uthaymin, d'autres mufassirin également, disent en plus que, en plus des bienfaits, on parle des bienfaits de Jannah, dit que le croyant, celui qui était dans le droit chemin, il obtient, on va dire, une partie de ce ni'ma, de cette tranquillité du cœur de le dunya. Celui qui a la conviction, la confiance totale en Allah, et qui se contente de ce qu'Allah lui a accordé, et qui s'efforce de rester dans le droit chemin, et de s'éloigner du haram, Allah Azza wa Jal lui accorde une tranquillité. Certes, ce n'est pas la même tranquillité que les gens du paradis, mais on va dire que c'est à peu près la même chose que ce que les gens du paradis ressentent. Celui qui a une foi complète, qui a une conviction en Allah, qui a le cœur satisfait de ce qu'Allah lui a accordé, et qui a une confiance totale sur le destin, que tout ce qui arrive, ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal, cette personne-là est réellement zen, est réellement, il a une quiétude dans le cœur que même les gens les plus aisés, les plus riches, ne peuvent comprendre et ne peuvent obtenir. Hada. Inna al-abrara la fi na'im, et l'autre catégorie, wa inna al-fujjara la fi jahim. Et les libertins seront certes dans une fournaise. On n'a pas besoin de décrire, on avait déjà expliqué un petit peu description de Al-Jahim, description du Jahannam, mais ce qui nous interpelle, et en relisant le tafsir ce matin, le verset là m'a choqué. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ où ils brûleront le jour de la rétribution. C'est pas encore ça. Ce qui est choquant, c'est وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Alors ça, ça interpelle. Incapable de s'en échapper. Ça, ça fait peur. Les Mufassirin disent que à aucun moment, il n'y a pas une seconde de répit pour les personnes qui sont dans le Jahannam. Il n'y a pas une seconde où le châtiment est allégé, où il souffre moins. Non, c'est quelque chose de perpétuel, mustamir, une souffrance sans arrêt. Et dans ce dunya, si on, je dis ça comme ça, si on torture une personne, d'un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La personne s'évanouit. Et quand la personne s'évanouit, il ne ressent plus la douleur. Ou au pire, la personne va mourir. Et quand la personne est morte, khalas, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de torture. Mais dans le Jahannam, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. On ne s'évanouit pas et on ne meurt pas. Le corps peut être certes détruit, mais immédiatement après sa destruction, le corps retrouve son apparence. Dans le verset, il est dit, concernant le feu qui brûle la peau des gens de l'enfer, qu'Allah nous protège, « Kullama nardijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha » traduction approximative en ce sens qu'à chaque fois que la peau, que le corps de l'homme sera entièrement brûlé et consumé dans le Jahannam, si quelqu'un peut me reprendre, on est fatigué là, on vient de citer le verset correctement, à chaque fois que la peau sera consumée, Allah Azza wa Jal ordonne au corps de se reconstituer immédiatement. Baddalnahum, voilà. Baddalnahum juludan ghayraha. Une autre peau, le corps se reconstitue dans quel but? Li c'est l'âme at-ta'lil, dans le but que liyadhuqu al-'adhab, afin qu'il goûte de nouveau le châtiment, et cela de façon perpétuelle et éternelle. Donc quand on prend conscience certes, des bienfaits du paradis, ça fait rêver. Ça donne envie d'accéder. Mais quand on prend conscience également des souffrances de le Jahannam, on doit avoir peur. S'il y a bien quelque chose qui doit nous effrayer, c'est le Jahannam. Mais Sahaba, j'ai plus son nom en tête, disait qu'il passe une nuit blanche, il n'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'il a entendu des versets qui décrivent le Jahannam. Et quand il prend conscience du Jahannam, il a tellement peur qu'il n'arrive même plus à dormir. Subhanallah. Ça, c'était l'état iman des sahaba. Donc, normalement, nous, on entend, on en parle, mais ça, au moment où on entend, ça fait quelque chose, mais dès qu'on quitte l'assemblée, on retourne chez nous, qu'Allah nous pardonne, on est prêt à retourner vers, vers les mêmes erreurs. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ كَمَا نَدِي وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Et enfin, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Prise de conscience, ô être humain, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Allah Azza wa Jal insiste deux fois sur l'ampleur du Qiyamah. C'est que vraiment, c'est un événement extraordinaire. C'est vraiment un événement effrayant, exceptionnel. Que réellement, le but, c'est que chaque personne prenne conscience de Yawm al-Din. C'est quoi Yawm al-Din? Que chaque personne prenne conscience de la réalité du Qiyamah. Et avec ça, on ne se détourne plus du droit chemin. Avec ça, on prend conscience que les anges sont là. Ils inscrivent les actions. Avec ça, on prend conscience qu'il y a un retour auprès d'Allah. Et on comprend réellement qu'est-ce qu'Allah attend de nous durant les années qu'on passe de ce dunya. Le plus important, la solution c'est quoi? C'est prendre conscience, comme on a dit tout à l'heure, et le verset là, ça va de ce sens, prendre conscience qu'il y a un retour auprès d'Allah, Yawm al-Din, Yawm al-Qiyama, Yawm al-Jaza, tous les termes qui parlent du retour auprès d'Allah, le jour des comptes. Et description de ce jour, Yawm ala tamliku nafsul li nafsin shay'a, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Personne ne pourra ni ne voudra aider son prochain. Il y a d'autres versets qui parlent de l'homme avec sa femme, du père avec son fils ou du fils envers son père. Quels que soient les liens d'affection, de parenté, personne ne voudra aider son prochain le jour de Qiyamah. Parce que ça, c'est le jour de Qiyamah. Le leitmotiv, c'est quoi? C'est nafsi, nafsi. Personne ne pensera à son prochain. Et en ce jour, wal amru yawma idhin, c'est pour qui? Lillah. En ce jour-là, le commandement sera à Allah. Il n'y a que le seul qui prend les décisions. Celui qui donne l'autorisation à une personne de parler ou de demander shafa'a, d'intercéder pour quelqu'un, c'est Allah. Personne ne bouge, ne parle sans l'ordre d'Allah le jour de Qiyamah. Le hadith est dit, pour revenir au verset, yawma la tamliku. Non, le verset, subhanallah, le jour où aucune âme, yawma la tamliku, nafsuli, nafsin shay'a, ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Il y a un hadith de lequel il dit que thalatha, il y a trois étapes de l'au-delà, la yadhkuru fiha ahadun ahada, où personne ne pensera à son prochain, ne voudra même pas regarder son prochain. Même si j'ai vécu 45 ans avec cette femme, on est mort ensemble, à côté, main dans la main, hein, comme dans le rêve de tout le monde. Il y a parfois des couples, quand ils se parlent, ils sont arrivés à un certain âge, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils disent que si tu meurs avant moi, ce sera terrible. Ils disent non, si c'est toi qui meurs, ça va être terrible pour moi. Ils disent, Inch'Allah, on mourra ensemble. Ben, ils sont morts ensemble, on va dire, main dans la main, comme ils le souhaiteraient, comme ils le souhaitaient. Mais le jour de Qiyamah, ils ne voudront même pas se regarder dans ces trois étapes, parce que là-haut c'est nafsi, nafsi, même s'ils avaient tout partagé de ce dunya. La première étape c'est عند المizan حتّى ينظر. Première étape c'est المizan, la balance, jusqu'à ce que la personne voit est-ce que la balance est en mon avantage ou la balance va contre moi. Tant que la personne ne voit pas le résultat de la balance, il ne voudra pas regarder son prochain, même les gens les plus proches, parce que ce sera la plus grande angoisse de sa vie quand il sera près de la balance. Deuxième étape, wa inda sirat hatta yanzura ayujawizahu amla, sur le sirat, le pont, comme on a dit tout à l'heure en introduction. Tant que la personne n'aura pas franchi ce pont, il ne sera pas tranquille, il ne voudra pas regarder sa femme, ses enfants, ses amis ou ses parents, parce que le pont, c'est la plus grande angoisse également des gens le jour de Qiyam. Wa inda suhuf hatta yanzura بيمينه يأخذ الصحف أم بشماله. L'étape de la remise des livrets. Tant que la personne ne voit pas le livret remis dans sa main droite, la personne sera angoissée. Est-ce qu'Allah va me donner dans la main droite ou Allah va me le donner dans la main gauche dès à mon dos? Tant que la personne ne verra pas la décision d'Allah de cette étape, la personne sera angoissée. C'est-à-dire, chaque étape qu'on a citée, ce sera des moments de stress, des moments d'angoisse envahissants qu'on ne voudra même plus regarder les gens qui sont proches de nous. Et le verset, les kulli mri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni. À ce moment-là, les gens auront quelque chose qui vont les préoccuper. Et qu'est-ce qui les préoccupe? Ce sont les étapes qu'on a citées. La balance, le sirat, les livrées des actions. Et donc, en ce jour, le dernier verset, wal amru yawma'idhin lillah. En ce jour, c'est Allah qui prend les décisions. En commentaire, les mufassirins disent que de ce dunya aussi, c'est Allah qui prend les décisions, oui ou non? Mais de ce dunya, Allah prend les décisions. Et Allah accorde également à des hommes, des êtres humains, la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions, bonnes comme mauvaises. Dans ce dunya, on va trouver un roi, un tyran, un empereur, un gouverneur qui va opprimer les peuples, qui va torturer des gens, qui va faire des génocides et ainsi de suite. Vous vous dites, oui, mais comment ça se fait qu'il peut faire ça? Allah le laisse. Oui, Allah lui a accordé ce pouvoir, il le gère. S'il a mal géré, il trouvera les conséquences du jour de Qiyama, et ceux qui ont été opprimés par cette personne, ils auront des hauts grades le jour des comptes. C'est ce qu'on a vu dans Tafsir à la fin de Suratul Buruj. Mais le jour des comptes, il n'y a plus de tyran, il n'y a plus de roi, il n'y a plus personne. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Le jour des comptes, c'est uniquement Allah qui prend les décisions, et c'est Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Et en ce jour, c'est le jour de Al-Adl, la justice parfaite d'Allah Azza wa Jal. Et quand on est conscient que le jour des comptes, c'est uniquement Allah qui prend les décisions, on doit être conscient que c'est auprès d'Allah qu'on peut avoir notre salut, le paradis, le succès. Et c'est dès maintenant, c'est dans ce dunya qu'on doit le rechercher auprès d'Allah, parce que le jour des comptes, je me dois de me rapprocher d'Allah, parce que le jour de Qiyama, il n'y aura que Allah Azza wa Jal qui prend la décision concernant mon éternité. Mes chers frères, on a essayer de parcourir, vraiment, en résumé, le tafsir de Al-Infitar et de Sama'un Fatarat. Nous avons retenu une description de la fin du monde, des étapes de l'au-delà, et le message le plus important, c'est « وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ » Prendre conscience qu'on a un retour auprès d'Allah, prendre conscience qu'on a « كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ » Les anges qui inscrivent les actions, celui qui prend conscience de ça, mes chers frères, demain, Fajj, il est là au premier rang. Il fait son qiyamul layl, il n'écoute plus la musique, il ne consomme plus de l'intérêt, il mange plus du haram, il regarde plus ce qui est illicite, parce qu'il a réellement compris qu'il y a un retour auprès d'Allah, et que dès maintenant les anges sont là pour écrire les actions. Et quand le qiyama aura lieu, idhal qubur bu'thirat, quand les corps vont être ressuscités pour être présentés auprès d'Allah, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Qu'Allah nous donne à tous tawfiq de comprendre le sens de la sourate Al-Infitar, de mettre en pratique dans nos vies, et que ces versets-là, Inch'Allah, changent notre vie et nous permettent de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc Inch'Allah, on va essayer d'être ferme dans les programmes de vendredi, on va pas s'absenter, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y a rien d'autre le vendredi, sauf qu'il y a des mariages, des nikahs à faire, donc là on n'y peut rien, mais dans la mesure du possible, à partir de ce jour, on est régulier tous les vendredis après la salat al-isha pour le tafsir des différents sourates du Juz'am. Qu'Allah nous accepte l'un tawfiq et nous permet de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.